Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vous êtes sur le point d'écouter AI, un podcast intelligent et sans artifice, en forme de réflexion sur les promesses d'avenir radieux portées par les chants plus ou moins mélodieux des sirènes binaires de l'océan digital.
It's on a sink in the cattle go devils go down. It's red in those wings that on. Those wings that on. It's time.
Bonjour, je suis Vincent Malone et si vous m'entendez, c'est que vous écoutez AI, un podcast qui ne fait que du bien, avec sur la mezzanine du poste général deux experts aux intelligences tout à fait naturelles, Olivier Vigneault, président de BETC Digital.
Bonjour.
Il est à fond. Et Sébastien Oudus, grand spécialiste de la stratégie digitale.
Bonjour.
Ainsi que Félix Barès, un journaliste aussi intelligent qu'intransigeant.
Bonjour.
Le sujet du jour étant...
Never offline.
L'utilisation de services internet, tels que la lecture et rédaction de courriels, est dite en ligne si elle nécessite une connexion, via de la messagerie web, ou par opposition, hors ligne, si un programme est capable de réaliser ce service de manière locale et autonome, sans être constamment connecté à un serveur externe.
Mais d'abord, on s'écoute une petite pub.
Oh là là, je suis perdu, au milieu de nulle part.
Oh zut, je n'ai pas la réponse à cette question urgente.
Je l'aime, mais j'ai oublié son nom.
Allons les amis, tout cela c'est bien fini. Et désormais nous pouvons tous être Never Offline. Mémoire, santé, voyage, bricolage. Avec Never Offline, ce sont 7 milliards d'experts et d'amis qui partagent avec vous chaque seconde de leur vie. Never Offline. Never Offline. C'est partout dans le monde.
Merci.
À chaque seconde.
Merci.
La garantie pour tous d'être connectés.
Oui, même toi.
Avec Never Offline, vous ne direz plus jamais...
Oh non, il n'y a plus de papier.
Alors vous aussi, choisissez d'être Never Offline.
Attention, l'ajout d'une puce ou d'un implant peut avoir des conséquences sur votre comportement. Never Offline est un service gratuit, conditions sur neveroffline.org. Connexion à consommer avec modération. Pour votre santé, observez, réfléchissez, déconnectez.
Est-ce que ce que nous venons d'entendre est crédible ?
Bah oui, en fait,
Sébastien,
c'est tout à fait crédible, Vincent, ne serait-ce que déjà par la relation qu'on a au smartphone qu'on possède à peu près tous. Le temps que les Américains passent sur leur téléphone chaque jour, c'est 5 heures par jour. Et il y a une étude de Google qui a été faite assez récemment, il y a un an, qui dit que l'utilisateur moyen touche son téléphone 2617 fois par jour, ce qui est quand même énorme.
Moi, j'arrive pas à le croire.
Et les heavy users, comme ils disent chez Google, ils touchent leur téléphone plus de 5000 fois par jour.
Olivier.
Sébastien évoquait notre vie connectée à travers les téléphones. Ce qui est en train de se passer, c'est que avec des technologies qui sont à la fois du côté de l'infiniment petit, c'est-à-dire des processeurs qu'on va pouvoir ingérer et qui vont pouvoir mesurer ce qui se passe en permanence à l'intérieur de notre corps.
Miam miam, j'ai envie de dire.
Donc là, ça permet de se retrouver finalement tout le temps en pleine connaissance de nos battements de cœur, du niveau d'oxygène dans notre sang, enfin voilà, tout ce qui se passe à l'intérieur du corps. Et puis d'autre part, avec des boîtes qui sont en train de vendre la photographie en temps réel, en permanence, de la planète via les satellites. Mais ça veut dire que finalement, la planète entière, toutes les géographies sont en permanence mesurées par des machines et donc toujours connectées, toujours connectées, toujours connectées, toujours connectées.
Ce courant qui a tendance à vouloir ou à prôner le mix entre le physique humain et la technologie, qui s'appelle le transhumanisme, c'est un courant qui est aux États-Unis et très très développé. Il y a même eu un candidat à la présidentielle transhumaniste, donc qui prône en fait la fusion de l'homme et de la technologie. En France, c'est un terme qu'on n'aime pas et qui est pas très populaire, mais il y a pas mal de conférences qui se font, notamment dans les écoles spécialisées sur ce sujet. Et c'est clairement ce que prônent ces hommes-là. Il y a même des gens très riches qui investissent là-dedans pour dire, voilà, on a un corps, jusqu'à maintenant, c'était notre corps, il n'était pas mêlé à de la technologie, mais en vrai, on pourrait effectivement s'implanter des choses, ingérer des choses qui nous permettraient de vivre plus longtemps, d'avoir un cerveau qui fonctionne mieux. C'est un peu tabou. Moins aux États-Unis, les GAFA travaillent beaucoup là-dessus. Ça s'appelle le transhumanisme. Voilà, l'humain de demain sera effectivement sans doute pas qu'un corps fermé, mais un corps très connecté.
Qu'est-ce qu'on appelle exactement le never offline aujourd'hui ?
Le never offline, c'est la capacité à mesurer toute notre activité, quelle qu'elle soit. Et évidemment, d'un point de vue marketing, c'est cette connexion qui ne s'arrête jamais avec les outils digitaux qu'on utilise. Et ça pose énormément de questions. Ça pose énormément de questions parce que, à la fois, il y a des promesses formidables d'accompagner les gens mieux que jamais, notamment dans leur santé, mais il y a aussi le principe de l'addiction à ces outils et finalement l'enfermement dans pas mal de solitude aussi avec son téléphone, avec des contenus qui nous abreuvent en permanence et qui sont en train d'être considérés comme des problématiques quasiment de santé publique.
Il y a déjà eu des partenariats qui ont été créés entre Apple, par exemple, et une compagnie d'assurance. Et après, on se dit, bah oui, c'est intéressant parce que on va peut-être proposer des polices d'assurance moins chères à ceux qui prennent en charge leur santé. Donc, je fais plus de sport, je cours plus, etc. Mais des gens qui, quelque part, ont des maladies qu'on va pouvoir mesurer en permanence, bah du coup, en fait, on rentre dans une forme de discrimination qui est un peu complexe.
On parle beaucoup de maladies, on parle beaucoup du corps, mais on oublie aussi que le never offline, c'est également comment capter l'attention des gens, l'attention qui a le plus de valeur dans le monde. Félix, vous m'avez parlé de l'attitude de Netflix qui
avait dit que son principal concurrent était le sommeil, en fait. Voilà, le moment où on n'est pas attentif.
Voilà, donc on parle vraiment d'un never offline un peu différent, plus dark, hein, qui est de comment on maintient les gens toujours en attention, quoi.
On retrouve un peu ce qu'avait dit le PDG de TF1, hein, que de vendre du temps de cerveau disponible, finalement. On est sur l'idée de produire du contenu, de produire des choses qui créent de l'attention, quelle qu'elle soit, pour ensuite pouvoir, dans un monde un peu justement dark, vendre des choses. Mais bon, c'est aussi vendre des produits culturels, diffuser des informations, donc c'est pas que vendre des produits.
Il y a des tas de recherches qui sont faites sur la capacité du design à créer une forme d'addiction et à donner envie d'utiliser les outils digitaux.
D'où par exemple cette application qui permet de transformer son iPhone en grille.
Alors ça c'est l'étape d'après, c'est-à-dire que la première étape c'est, vous avez remarqué, dès que votre téléphone est dans la poche, tout d'un coup vous sentez qu'il vibre. C'est quasiment irrésistible, vous dites mais qu'est-ce qui se passe, je vais regarder. Vous avez une petite notification sur votre Facebook ou sur votre Gmail, forcément vous vous dites, ah j'ai 3, 4, 12, 25 messages, 25, vous n'y arrivez jamais parce qu'en fait avant vous avez craqué et vous les avez regardés. Donc ça c'est du design et c'est du design qui est fait et c'est mesuré pour nous donner envie parce que il y a une petite gratification qui consiste à aller voir ce qui a l'air de m'être destiné et qui est une information pour moi. Et puis souvent on est un peu déçu par les messages qu'on ouvre, mais bon, voilà, c'est trop tard, on l'a fait, donc on a touché son téléphone une fois de plus. De la même manière, les petits mouvements qui existent notamment dans Facebook sur les interactions vraiment là quasiment physiques qu'on a avec le téléphone, donc des petites vibrations, des petits battements qui peuvent juste s'agiter comme ça un peu à la Candy Crush quand on passe son doigt sur son téléphone, c'est aussi des micro-satisfactions qui donnent envie d'y revenir. Donc on crée ces formes de désir d'utiliser les outils et qui sont évidemment très importants pour les marques puisque ça peut être une manière de donner envie de revenir et d'être en contact avec elles tout simplement.
Toutes ces techniques de design, elles sont nommées de manière neutre en disant en fait c'est du persuasive design. Donc comment en fait on donne envie aux gens de toujours regardez plus, l'exemple de Netflix, il est assez frappant. Ils ont toujours dit, oui, on est très responsable. Donc, par exemple, quand on voit que quelqu'un a enchaîné 6 ou 7 épisodes de suite, on pose la question de « Are you still watching ?» Sous-entendu, dis donc, en fait, il faudrait peut-être aller faire un tour. Il n'empêche que de l'autre côté, je sais pas si vous avez tous remarqué, mais quand on passe d'un épisode à un autre sur Netflix, en fait, ça se met en autoplay, donc ça se joue quasiment automatiquement au bout de 4 secondes. C'est-à-dire qu'il est quasiment impossible, si on regarde Netflix sur sa télé ou sur son ordinateur, de couper en fait Netflix avant même que l'épisode d'après commence. Et l'autoplay, par exemple, quand on parle de Never Offline, c'est une technique de design qui existe sur toutes les plateformes, c'est-à-dire YouTube, Facebook et Netflix, ont tous choisi l'autoplay. Parce que, en fait, quelque part, je n'ai pas le mot KPI en français, mais...
Wow, KPI, okay, no, sorry, KPI.
How do you say in French?
On dit indicateur clé de performance.
toutes ces plateformes ont mis en place l'autoplay parce que les ingénieurs, les designers, les techniciens qui travaillent dans ces plateformes sont tous rémunérés en fonction du temps que les gens vont passer sur la plateforme. Donc plus ils passent de temps, plus leur salaire est relativement démentiel. Donc effectivement, on a un côté never offline et on pousse les gens à rester sur le site le plus longtemps possible en fait.
Vous parlez de série, il y a une série en ce moment je crois qui passe qui est vraiment sur le never offline.
C'est une web série française qui s'appelle Hyperconnexion. C'est une web série qui est tournée à Marseille avec un réalisateur qui s'appelle Lasco. J'ai découvert ça parce que c'est une petite web série qui marche pas mal à l'international.
J'ai vu la grotte de
Lasco. C'est un peu plus vieux.
J'adore tes blagues, Vincent.
C'est une web-série, en fait, là, il y a que deux épisodes qui sont sortis pour l'instant, c'est visible sur YouTube, et c'est vraiment le monde où il n'y aurait plus qu'une seule plateforme, en fait, de réseau qui s'appelle, Xenia, et en fait, toutes les connexions passent par elle, donc elle contrôle, évidemment, tous les outils, les voitures, tout ça, donc on voit, effectivement, un monde ultra connecté, c'est à la fois projeté dans le futur, à la fois c'est assez réaliste, on voit quelqu'un qui part en voyage, du coup, le voyage est décidé par l'intelligence artificielle qui connaît tous ses goûts, qui pilote la voiture pour l'emmener là-bas, qui sécurise la maison en partant, qui contrôle ses signes vitaux, etc.
C'est un peu WeChat qui pilote toute la vie des Chinois aujourd'hui, c'est exactement la même chose.
C'est super intéressant l'exemple chinois parce que il y a effectivement du côté US, les GAFA, en fait, ils sont incentivés sur le temps que les gens passent sur le site et WeChat, c'est encore une autre technique. Au départ, c'est une application de messagerie du groupe Tencent. Et eux, ils ont intégré de plus en plus de fonctionnalités dans l'application qui fait que ils retiennent les gens parce qu'en fait, ils gèrent pas leur vie numérique, mais ils gèrent globalement leur day-to-day. En fait, je peux gérer toute ma journée grâce à WeChat, c'est-à-dire je peux booker un taxi, je peux trouver un rendez-vous chez le médecin, je peux payer mes courses, je peux
commander des tickets de cinéma,
je peux tout faire en fait. Donc ça part de la messagerie et après, ils ont développé une logique de ce qu'on appelle le one-stop-shop, c'est-à-dire que en fait, il y a tout dans l'appli qui me permet de gérer globalement toute ma journée, des finances à la santé, aux loisirs,
etc. Et même le dating qui est intégré.
Et alors pourquoi on n'a pas ça, nous, ici ?
Aujourd'hui, en fait, Facebook, ça sert évidemment à rester en connexion avec ses amis, à lire un peu les nouvelles de la presse en fonction des organes de presse auxquels je suis abonné. Il y a une marketplace sur Facebook dont on parle pas beaucoup, mais qui permet en fait d'acheter ou de vendre plein d'objets autour de moi. Ils annoncent l'appli de dating. Peut-être que bientôt, ils vont intégrer et les taxis et la possibilité de chatter avec son médecin en direct si on a un problème de santé. On est quand même sur une voie comme ça, en l'occurrence.
Culturellement, manifestement, en Asie, enfin, en tout cas chez les Chinois, il n'y a pas de problème avec les notions d'hégémonie. C'est-à-dire que ils se disent manifestement que c'est plutôt plus pratique et que tout soit au même endroit est une bonne solution. Je pense qu'on a plus de réserves avec les utilisateurs occidentaux. Revient plus la question de est-ce que je dois tout donner à un même acteur et une forme de réserve. Et aussi, du coup, ça revient à notre point de peut-on être tout le temps connecté ou ne doit-on pas se préserver des plages hors de cette plateforme, quelle qu'elle soit.
Bien, donc chacun cherche son chat.
C'était prévu ou c'est une appro ?
Never offline, c'est aussi partout sur la planète, il n'y a plus aucun coin où on ne soit pas connecté, Olivier.
Imaginez que Google Maps ne soit pas uniquement une cartographie statique avec des photos satellites, mais soit la photographie en temps réel de tout ce qui se passe sur la planète. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on est capable de comprendre les mouvements qui ont lieu sur une zone précise, identifier, je sais pas, le nombre de camions qui sont passés, le nombre de bateaux, les mouvements de foule, etc. Donc donner du sens à cette information et évidemment du coup la rendre beaucoup plus facile à utiliser, voire commercialisable pour des raisons économiques.
Et c'est aussi le principe de la Smart City, la ville connectée, c'est la ville de demain. Il y a à Marseille, il y a une tentative qui a été faite de Smart Say. Voilà. C'était un écoquartier connecté et par exemple ce que tu disais sur l'idée de voir tout ce qui se passe en temps réel, notamment pour le parking, de voir en temps réel où étaient les places libres pour que quand tu es dans ta voiture et que tu te balades, tu as un petit push qui te dise voilà, là il y a une place libre à tel endroit pour fluidifier le trafic. Une ville connectée, ça pourrait être une ville effectivement où en temps réel on a plein d'informations qui nous permettent de mieux vivre ensemble et qu'aucun endroit ne soit finalement déconnecté.
Le Never Offline, ça marche aussi à travers bah, ce qu'on appelle l'IoT, je crois, c'est ça.
C'est pas un plat provençal.
Oh, la bonne IoT. Je te prépare.
L'IoT, comment ça marche?
IoT, c'est Internet of Things. Donc ça veut dire que de plus en plus de choses qui nous entourent vont être connectées à l'Internet pour digitaliser à la fois notre environnement, nos corps, etc. Donc l'exemple le plus parlant de l'IoT, c'est la vague des assistants vocaux dont on a déjà parlé récemment. Mais on estime en fait que toujours d'ici 2020, donc c'est-à-dire dans maintenant 2 ans, en fait 2020 paraissait loin à une époque, mais maintenant c'est dans 2 ans, en fait on estime que 20 milliards d'objets seront connectés et utilisés par les gens dans le monde. Donc on le voit beaucoup avec les assistants vocaux, ça passe aussi par... aujourd'hui, il y a tout un tas de trucs un peu gadgets qu'on voit notamment au CES à Las Vegas, qui est la grande foire à tout de l'Internet. Des frigos connectés, des lits connectés qui vont mesurer ton activité du sommeil, etc. Les montres connectées, évidemment, on en a beaucoup parlé aussi.
Il y a des fourchettes connectées aussi, qui vibrent quand on mange trop vite.
Ou quand on a trop mangé. Genre, ah non, tu as trop mangé, ça suffit maintenant.
Oh non, tu as trop mangé, ça suffit maintenant.
En fait, ce qui est intéressant dans le fameux Internet of Things, c'est que ça ouvre évidemment plein de possibilités. Et en même temps, il y a de plus en plus de risques de piratage. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai un pacemaker connecté qui permettrait à mon médecin de mesurer en temps réel si j'ai une arythmie cardiaque, etc., voire à la police d'être prévenu s'il se passe quelque chose dans mon corps.
À la police ?
Ah oui, j'ai dit la police. Non, mais par exemple, tu as une arythmie cardiaque, Vincent. Imaginons, tu as une arythmie cardiaque.
Arrêtez avec vos histoires médicales, c'est fatigant.
Oui, mais en fait, en vrai... Le premier champ d'exploration de ce fameux Never Offline, en vrai, c'est la santé.
J'ai une question sur l'IoT, du coup. Est-ce qu'aujourd'hui, un produit qui n'est pas connecté reste vendable? Ou est-ce qu'aujourd'hui, pour une marque, si un produit doit être connecté?
Non, en fait, aujourd'hui, un produit qui n'est pas connecté, il reste vendable.
Bah,
la vraie question qui se pose, c'est toujours pareil. Et nous, c'est un peu ce qui nous obsède, c'est... la question des utilisateurs. Aujourd'hui, en fait, avoir un assistant vocal qui fonctionne sur un système, avoir un frigo Samsung connecté qui fonctionne sur un autre système, mon système de lampe connectée qui est encore un autre système, voire mon système de musique connectée qui est encore un autre système. En fait, pour l'utilisateur, in fine, si j'ai des systèmes hyper intelligents, mais que personne, en fait, que le frigo ne parle pas à l'assistant, qui ne parle pas à la musique, qui ne parle pas, en fait, ça ne sert à rien, globalement. Et donc, la vraie question qui se pose pour le futur de l'IoT, c'est vraiment qui va gagner la bataille du système universel qui connectera tous les objets entre eux. Pour moi, en fait, humain basique, me faire gagner du temps.
Google vient d'être condamné à nouveau à une amende de plus de 4 milliards d'euros pour atteinte à la concurrence. Donc ça va vraiment se poser le problème de savoir si on centralise, c'est forcément une atteinte à la concurrence qui n'est pas bien vue en Europe et aussi aux États-Unis, mais plus en Europe. Donc la centralisation va être compliquée parce que
on va tous rentrer dans un monde.
C'est
un peu inévitable.
On a vu que le Never Offline, c'était la possibilité pour nous tous, vous, moi... surtout vous, mais un peu moi aussi, d'être connecté en permanence, d'avoir un tas de services, enfin d'être un peu les rois du monde, mais c'est également, je suis observé, photographié en permanence, analysé, dataifié, enfin tout un tas de trucs, ce qui m'amène, en toute logique, à une forme de « Hey, Félix, raconte-nous un peu d'histoire ».
L'histoire surprenante, mais édifiante, du roi Soleil.
Pas facile de trouver dans l'histoire un avant-goût de cette révolution qui est très propre au XXIe siècle, l'hyperconnexion. Mais il y a une personne, un Français, qui me semble avoir vécu quelque chose comme la vie d'un accro au smartphone. Et c'est rien moins qu'un roi, le soleil, Louis XIV. Lorsqu'il s'installe à Versailles, il met en place l'étiquette, une procédure quotidienne qui transforme ses journées en phénomène public relié à son réseau de courtisans. Il n'a pas de vie privée. Ou plutôt comme nous, pauvres humains connectés, sa vie privée est une donnée offerte au monde. Alors à 8h30, le réveil de son téléphone à l'allure de valet de chambre sonne en susurrant « Sire, voilà l'heure ». Tous les matins, il entend cette phrase « Sire, voilà l'heure ». Et en ouvrant les yeux, le roi se branche automatiquement à la cour comme au wifi. Déjà plus d'une dizaine de personnes le regardent. Premier servi, le médecin et le chirurgien qui l'inspectent à la recherche des données vitales. Puis, encore engourdi, le roi soleil, comme le commun des mortels depuis la nuit des temps, se lève pour le fameux « caca du matin ». En bon youtubeur de l'extrême, c'est devant près d'une centaine de spectateurs que Louis va sur sa chaise percée. Un public qui paye le droit de voir le roi faire ses affaires. Ce même public de followers verra monsieur se faire laver, coiffer et habiller. En sortant de sa chambre, Louis XIV entre un peu plus dans le monde des relations virtuelles. Il traverse la galerie des glaces, la galerie des selfies, où une procession interminable de courtisans l'attend, autant d'applications qui clignotent, pleines de notifications intrusives qui lui fracassent le crâne de bon matin. En effet, les courtisans avaient tous quelque chose à demander au roi et n'étaient pas là par hasard. Derrière chaque connexion du roi se cache un intérêt, un détour, un biais. Un intérêt, un détour, un biais. Alors avant de se mettre au travail, il s'accorde un moment digital détox. Une messe de 30 minutes. Un recueillement qui est rare aujourd'hui. De retour aux affaires, le roi tient conseil, connecté au royaume et au monde entier grâce à son armée de ministres et de conseillers, il est au courant de tout, assommé par toutes ces données. Son déjeuner ressemble tristement à celui de nos contemporains, assis devant la fenêtre, la télé de l'époque. Il mange seul, mais sans jamais couper son portable, c'est-à-dire sans congédier la dizaine d'observateurs qui chuchotent dans son dos. Alors certes, dans l'après-midi, le grand Louis pouvait décompresser en chassant ou en s'échappant dans la forêt avec ses maîtresses, mais à peine le pied posé à Versailles, l'enfer qu'il avait lui-même pensé se rouvrait, bain de foule, dîner mondain, demande intempestive et coucher semblable au lever en compagnie des privilégiés de la cour. Même la nuit, il se mettait en veille discrète la connexion permanente sous la forme du valet assis au pied du lit. De roi, Louis XIV était donc devenu esclave de l'étiquette, comme l'homme du réseau qu'il a créé. Ses descendants Louis XV et Louis XVI se mirent à détester ce rituel et se réfugièrent dans leurs appartements privés ou dans les autres résidences royales. Mais nous, plus fous que rois sur l'échiquier du web 3.0, quelle autre résidence pourrait nous accueillir pour échapper à l'étiquette de l'hyperconnexion ?
C'est tellement bien, Félix, j'adore.
Bon, ça, bon, c'est bien. Est-ce que...
Non, mais c'est comme marrant, je sais que tu coupes.
Oui, c'est hyper bien, franchement.
Non,
c'est
pas
hyper
coupé, cool. Dans ce cas-là.
Non, c'est hyper bien. Et surtout, on dirait la vie d'un joueur de l'équipe de France.
Un peu, c'est vrai.
Est-ce que nous avons, nous, les pauvres humains que vient de décrire Félix, une porte de sortie à ces Never Offline, à cette hyper connexion?
Oui. Bien sûr. Oui, bien sûr.
Voulez-vous en savoir plus ?
C'était AI, une émission du Poste Général en partenariat avec BETC Digital.